Bonsoir. C'est un séisme politique en Autriche. Le ministre de l'Intérieur d'extrême droite est limogé. Les autres ministres de sa formation démissionnent. Tout cela après la diffusion d'une vidéo compromettante pour son parti. J-6 avant les élections européennes et premier débat avec 14 candidats ce soir à la télévision. Mais en deux parties, les petits d'abord, les gros en prime time en ce moment. Le patriote Florian Philippot est passé en première partie. Il est notre invité. Une pétition et 2 millions de signatures plus tard, nouvelle étape pour l'affaire du siècle. Les 4 ONG qui poursuivent l'État français pour inaction climatique ont transmis au juge les derniers documents. Des pièces centrales, nous expliquera le patron de Greenpeace. Après 10 ans de procédure, Vincent Lambert devrait vivre ses derniers jours. L'interruption des soins a débuté ce matin, malgré les recours déposés par les parents, mais cet arrêt pourrait durer plusieurs semaines. Et puis en Algérie, l'armée dit non aux principales demandes des manifestants. Il n'y aura pas de report de la présidentielle. À 6 jours des élections européennes, l'extrême droite prend un sacré coup en Autriche, mais elle emporte avec elle le gouvernement. Le chancelier conservateur Sébastien Kurz a limogé tout à l'heure son ministre de l'Intérieur d'extrême droite, Herbert Kickl. Il est emporté avec son parti, le FPE, dans un scandale de collusion avec la Russie. Résultat, tous les ministres du FPE ont démissionné ce soir. Des élections législatives pourraient avoir lieu en septembre. Les précisions d'Isorias.
C'est après une longue journée de tractations que le chancelier conservateur Sébastien Kurz a annoncé le limogeage du ministre de l'Intérieur Herbert Kickl. Ce membre influent du FPE a été au cœur des discussions ces dernières heures. Sébastien Kurz souhaitait son départ car dans la vidéo qui a fait scandale, Heinz Christian Strache, le vice-chancelier démissionnaire, parle d'un financement caché du FPE. Or, au moment où la vidéo a été tournée en juillet 2017, Herbert Kickl était secrétaire général du parti. S'il y a une enquête, son départ est donc nécessaire pour qu'elle se fasse en toute indépendance, selon le chancelier. Herbert Kickl ne peut pas enquêter contre lui-même, a-t-il expliqué. Mais le FPE avait prévenu qu'il n'accepterait pas le départ forcé de ce dernier. Tous les ministres du parti vont donc démissionner. Sébastien Kurz a entendu le message et devrait donc proposer au président de la République, Alexander Van der Bellen, de nommer des experts au poste laissé vacant.
Isor Yas à Vienne pour France Culture. Ce n'est pas vraiment une surprise, mais une confirmation. Le Premier ministre portugais, le socialiste Antonio Costa, soutient Raphaël Glucksmann pour les européennes en France. La tête de liste PS Place Publique l'affirme sur Twitter. Les deux hommes se sont rencontrés à l'hôtel de ville aujourd'hui, à l'hôtel de ville de Paris, à côté de la maire Anne Hidalgo. 7 candidats sur un plateau. Deuxième débat télévisé du soir avant les élections européennes de dimanche. C'est jusqu'à 23h sur LCI, avec les principales têtes de liste, celles données à plus de 5% dans les sondages. 7 autres « petits candidats » entre guillemets ont débattu avant, pendant 2 heures. Parmi elles, Florian Philippot, tête de liste des Patriotes. Bonsoir.
Bonsoir.
En raison du nombre très important de candidats, les chaînes LCI ce soir et France 2 mercredi ont décidé de couper le débat en deux. Ça clarifie les débats d'après vous ?
Ce n'est pas ce qu'il y a de plus souhaitable, mais BFM jeudi soir fera différemment puisque tout le monde sera en même temps sur le plateau. On sera 11 à 21h, à 20h45. Mais en tout cas, le débat, moi, j'en suis sorti satisfait parce que sur toutes les thématiques qui ont été abordées, que ce soit le social, l'écologie, l'immigration, la démocratie, bon, on a bien vu ceux qui disaient un peu n'importe quoi, c'est-à-dire qui promettent la Lune mais restent dans l'Union européenne, donc ça n'a plus de sens, ça n'a aucun sens, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils promettent.
Vous proposez de sortir de l'Union européenne, hein, ça, le Frexit.
Moi, je veux qu'on puisse avoir le choix, et pour avoir le choix, il n'y a pas d'autre solution que de sortir de l'Union européenne. Et après, on aura des débats démocratiques, mais donnons-nous déjà le choix. Et c'est vrai qu'en étant dans l'Union européenne, on n'a pas le choix. Voilà. Après, le deuxième débat, les gros, entre guillemets, qui, je l'espère, seront un peu moins gros que prévu, en réalité dans les urnes, et déjoueront les sondages, eux étaient tous d'accord pour rester dans l'Union européenne, de la France insoumise au Rassemblement national, nouvelle version, puisque maintenant ils veulent rester dans l'Union européenne, en passant bien sûr par En Marche, les Républicains et le PS.
Le Frexit, vous le proposez, comme François Asselineau de l'UPR, vous êtes crédité de 2,5%, lui d'1%, le Frexit n'a pas vraiment la cote, alors pourquoi sortir ?
Oui, et notre liste est aujourd'hui celle qui a le plus de chances d'envoyer des eurodéputés avocats du Frexit, avocats de la sortie de l'Union européenne, la liste patriote gilets jaunes que je mène. Et pourquoi sortir ? Parce qu'il faut que nous retrouvions une démocratie, et que aujourd'hui, dans un système supranational, où en réalité 80% de nos lois viennent de Bruxelles, on peut débattre pendant des années et des décennies des mêmes sujets, de toute façon, nous n'avons plus le pouvoir, que ce soit sur les traités commerciaux, que nous ne verrons plus, que ce soit sur l'interdiction du glyphosate ou des pesticides qu'il faudrait tous interdire en 5 ans, que ce soit sur nos frontières nationales, que ce soit sur la libéralisation de nos services publics. Enfin, on tourne en rond en France parce que, en réalité, nous ne sommes plus un pays souverain et indépendant. Donc il faut quitter, au lieu de mentir et de faire croire qu'on peut réformer de l'intérieur l'Union européenne, ce que disent quasiment toutes les autres listes, ça c'est un mensonge.
En matière d'écologie, l'Europe pourtant semble bouger davantage que la France. L'Europe nous tire vers le haut, estime par exemple Corinne Lepage, face à Monsanto et autres lobbies. Comment la France toute seule pourrait faire bouger les choses ?
Alors honnêtement, je ne sais pas où Corinne Lepage a vu ça, parce que moi je n'ai jamais vu autant de lobbies qu'en étant au Parlement européen, et j'imagine qu'à la Commission européenne c'est encore pire, notamment Monsanto et toute l'industrie agrochimique. Ils sont comme un poisson dans l'eau au Parlement européen, puisqu'ils écrivent des textes, il y a même eu des émissions là-dessus, hein. Ils écrivent des textes, des amendements, et des centaines d'eurodéputés les recopient derrière. Donc c'est vraiment le règne des lobbies, et on l'a bien vu d'ailleurs, hein, sur le glyphosate qu'on n'a pas été capable d'interdire. Si la France était souveraine, elle aurait pu interdire le glyphosate et accompagner les paysans, qu'elle ne peut pas faire parce qu'elle n'est pas souveraine. Et puis les grands accords de libre-échange qui passent à tour de bras l'Union européenne sont vraiment mauvais pour la planète. Hein. Et il s'agit de faire venir de milliers de kilomètres des produits sur des super tankers, des super bateaux et par avion. Et on sait que ça pollue beaucoup la planète et que ça fait venir des produits de pays qui n'ont pas de bonnes normes environnementales. Moi, je crois à un processus écologique vertueux, une agroécologie, vraiment, mais on ne peut pas le faire dans le cadre de la PAC, la politique agricole commune, qui est une politique agricole chimique aujourd'hui.
À l'inverse, l'Union européenne est l'une des principales zones dans le monde à rejeter quasiment intégralement les OGM. Ça, c'est plutôt un bénéfice de l'Union européenne.
La France n'a jamais voulu des OGM, donc je crois qu'on n'avait pas besoin de l'Union européenne, et je pense qu'il faudrait une interdiction mondiale. De toute façon, vous voyez, c'est le genre de choses, il faudrait mobiliser l'ONU, les nations, les États, pour coopérer et interdire partout, parce que si on ne l'interdit pas partout, on aura toujours des problèmes avec des produits importés ou des traces dans des produits importés. Par ailleurs, dans le traité avec les États-Unis, il se trouve que nous importerons du soja OGM si ce traité va jusqu'au bout.
Nos collègues de France Info ont compilé tout un tas de données sur la dernière mandature du Parlement européen et vous apparaissez comme l'un des députés les plus absents avec 60% de présence seulement dans l'hémicycle. Pourquoi voter pour quelqu'un qui est absent ?
Non, 75% des votes étaient là. 75% des votes, c'est vrai que j'ai beaucoup de responsabilités, mais il se trouve que, vous savez, moi j'ai rempli mon mandat de manière très utile. On peut multiplier les statistiques, c'est assez facile, hein. Quand on n'a pas grand-chose à faire, on y va, on y passe, on signe, on touche 320 euros, hein, parce que quand on signe, on a 320 euros, puis on s'en va. Alors ça fait monter votre portefeuille et ça fait monter vos statistiques, mais en fait, vous n'avez rien fait. Bon, ben moi, j'ai trop de choses à faire pour me plier à ce petit jeu malsain, et j'ai concentré mon mandat sur des urgences. Par exemple, avec notre eurodéputé Mireille Dornano, ma collègue, on a combattu les pesticides puisqu'elle était coordinatrice de la commission pesticides au Parlement européen. On a fait passer un amendement pour interdire l'épandage des pesticides près des EHPAD ou près des écoles ou près des hôpitaux. Et ça, c'est une belle victoire. Et puis, j'ai été très politique dans mon mandat. J'ai porté haut et fort mes revendications et celles que j'avais prises devant les électeurs, c'est-à-dire la sortie de la France de l'Union européenne, que j'ai rappelé par exemple vaillamment devant Emmanuel Macron qui était venu dans l'hémicycle du Parlement européen en 2018. Donc je n'ai vraiment pas à rougir de mon mandat, au contraire.
Merci Florian Philippot. On pourra donc vous retrouver avec les autres candidats dans les prochains débats télévisés, mercredi sur France 2, puis jeudi sur BFM TV. Les résultats des élections seront-ils présentés et commentés d'ailleurs sur France Télévisions ? La question se pose. Un préavis de grève vient d'être déposé pour dimanche et lundi par plusieurs syndicats du groupe public. SNJ, UNSA et CGC s'opposent au passage sur France Info du journal du soir de France 3, le Soir 3, un projet qui devrait voir le jour à la rentrée prochaine. C'est un gros dossier d'une centaine de pages qui trône désormais sur le bureau des juges du tribunal administratif de Paris. Un mémoire complémentaire déposé par les 4 ONG de défense de l'environnement, Greenpeace, la Fondation Nicolas Hulot, Notre Affaire à tous et Oxfam France, et qui détaille tous les manquements de l'État. Pour le directeur de Greenpeace, Jean-François Julliard, c'est une pièce essentielle.
Aujourd'hui, ce document, ce mémoire complémentaire, est la pièce centrale qui va être examinée par le juge administratif. Très concrètement, on démontre que l'État ne respecte pas les objectifs qu'il s'est lui-même fixés en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, dont on sait qu'elles sont responsables du dérèglement climatique, que l'État ne respecte pas les objectifs qu'il s'est fixés aussi en matière d'efficacité énergétique, donc de réduction de la consommation d'énergie. Par exemple, dans le domaine des énergies renouvelables, l'État avait un objectif de 23% d'énergie renouvelable à l'horizon 2020. Il était à moins de 17% en 2017, donc on ne voit pas comment on pourrait rattraper ce retard-là. En matière d'efficacité énergétique, les objectifs que l'État s'était fixés pour 2020 vont vraisemblablement être atteints en 2026, pas avant. Donc ça veut dire que ces objectifs-là, encore une fois, que l'État s'est fixé, c'est pas nous, Greenpeace ou les autres organisations co-requérantes qui avons demandé à l'État de faire ceci ou cela, c'est l'État qui s'est donné ses propres objectifs et qui n'a pas mis ensuite en place des mesures pour parvenir à atteindre ces objectifs. Donc c'est en ce sens-là qu'on estime que l'État manque à ses obligations et qu'on est en droit de l'attaquer devant un tribunal administratif.
Jean-François Julliard, le directeur de Greenpeace. Les chasseurs, eux, disent merci à Emmanuel Macron. La Fédération nationale de chasse et ses 1,2 million d'adhérents saluent l'implication du président en faveur de leur sport, en particulier la baisse du permis de chasse de 400 à 200 euros. La polémique autour de l'arrêt des soins de Vincent Lambert fait réagir jusqu'au sommet de l'État. Le président de la République se range derrière l'avis des médecins qui ont commencé ce matin la procédure d'arrêt des soins contre l'avis des parents. Vincent Lambert, âgé de 42 ans, est tétraplégique et en arrêt et dans un état végétatif depuis 10 ans. Une décision en conformité avec nos lois, dit Emmanuel Macron, est prise au terme d'un dialogue permanent entre ses médecins et sa femme, qui est sa tutrice légale. La fin d'un débat qui a trop duré, estime pour sa part le président de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, Jean-Luc Romero.
Vous savez, en Belgique, chez nos voisins, qui décide quand on est dans une situation comme celle-là? C'est-à-dire que quand il n'y a pas de directive anticipée, quand il n'y a pas de personne de confiance, quand la personne ne peut pas s'exprimer, en premier, c'est l'épouse, le conjoint, c'est-à-dire la personne qui a été choisie par la personne malade. S'il n'y a pas de conjoint, ensuite, c'est les enfants adultes. Et on va en cascade après les parents. Ça veut dire qu'en Belgique, jamais les parents n'auraient pu s'opposer à la décision de l'épouse, qui est quand même la plus légitime, celle que Vincent avait choisie, et qui dit que Vincent avait toujours dit qu'il ne voudrait pas être dans cette situation. On n'aurait pas eu ces dizaines de juridictions qui sont très difficiles pour tout le monde. Et je trouve que c'est très grave. Et pareil, cette affaire, elle montre aussi certains dangers de la loi Leonetti. La sédation terminale qui lui est prodiguée, si jamais ça durait, je ne l'espère pas parce que je n'ai pas envie qu'on soit suspendu à ça et je pense que ce sera terrible pour les familles. Mais ce qui se passe dans notre pays, c'est que beaucoup de gens ont des sédations terminales qui durent 3 semaines. Vous vous rendez compte, on endort les gens, on arrête de les alimenter, on arrête de les hydrater et on attend qu'ils meurent. C'est pour ça que nous n'avons toujours pas compris pourquoi on ne pouvait pas avoir l'euthanasie qui permet aux gens de dire qu'ils veulent partir, de partir entourés des leurs et en quelques minutes.
De leur côté, les parents de Vincent Lambert ont lancé plusieurs recours pour relancer les soins, mais la Cour européenne des droits de l'homme a rejeté cet après-midi l'un d'eux, faute d'éléments nouveaux. Ford va supprimer 10% de ses emplois dans le monde, 7000 postes d'ici fin août, faire des économies et s'adapter au déclin des ventes de berlines et de citadines aux États-Unis notamment. Rien que cette semaine, 500 postes seront supprimés en Amérique du Nord. Google, demain devant le Sénat français, plus précisément la taxe GAFA, le projet de loi sur les géants du numérique est examiné en première lecture demain et mercredi au Palais du Luxembourg. La mise au point de l'armée en Algérie, l'homme fort du pays, le général Salah, chef d'état-major, appelle au respect du calendrier de la présidentielle. Cela fait pourtant 13 semaines que des milliers d'Algériens réclament un report de l'élection présidentielle du 4 juillet. Les précisions de notre correspondante à Alger, Leïla Berato.
Les manifestants résument leurs revendications par un slogan. Qu'ils s'en aillent tous. Ce lundi, le chef d'état-major Ahmed Gaït Salah a déclaré que ses revendications étaient irrationnelles, non objectives, irraisonnables, voire dangereuses et malveillantes. Dans le même discours, il a réaffirmé que l'élection présidentielle du 4 juillet prochain se tiendrait pour éviter un vide constitutionnel. Et le chef d'état-major a évoqué l'installation d'une instance indépendante de surveillance des élections. Pourtant, depuis plusieurs semaines, les Algériens qui manifestent répètent qu'ils refusent que cette élection ait lieu car elle est organisée par ceux qui étaient déjà en place quand Abdelaziz Bouteflika était toujours en poste. Cette opposition à la tenue de l'élection semble si importante que des personnalités de la société civile et d'anciens responsables politiques ont appelé à reporter le scrutin, estimant que le maintenir serait un danger pour le pays. Mais le chef d'état-major semble bien déterminé à maintenir la présidentielle. Le délai légal pour le dépôt des candidatures expire cette semaine et plus de 70 personnes ont présenté un dossier au ministère de l'Intérieur.
Leïla Berato à Alger. C'est un peu la figure du compromis en République démocratique du Congo, Sylvestre Lukamba, nouveau Premier ministre. C'est le président Tshisekedi qui l'a nommé 4 mois après son arrivée au pouvoir. Lukamba est un très proche de Joseph Kabila. Et puis autre événement politique en RDC, le retour de l'opposant Moïse Katumbi, 3 ans après son exil pour la Belgique. La météo pour demain, mardi, le temps devrait légèrement s'améliorer. La journée commencera sous un ciel gris et il pleuvra du nord-est aux Alpes du nord et au Massif central. L'après-midi, nuages et éclaircies alterneront avec encore quelques ondées. Les températures, le matin entre 6 et 14 degrés, les maximales entre 17 et 21 degrés.